La lettre à l'église de Pergame. Je vous invite à vous tourner dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 12. Page 277 pour ceux qui auraient la Bible bleue à la colombe, à la fin, tout à la fin de la Bible. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Troisième lettre, adressée par Jésus à l'une des sept églises de l'Asie mineure. Nous avons expliqué que ces sept églises étaient un échantillon représentatif de l'église avec un grand E à l'époque de Jean, mais que c'était aussi un signe de l'église, un échantillon représentatif de l'église à tout moment de l'histoire. Et ce qui est encore plus intéressant et plus fascinant, c'est que c'est un échantillon qui représente l'histoire de l'Église à travers les siècles. C'est un panorama de l'Église depuis l'Église apostolique, l'Église qui a suivi la mort de Jésus et sa résurrection, jusqu'à l'Église des temps derniers. Nous avons rappelé, je vous rappelle plutôt que dans chaque lettre, il y a sept éléments. Sept, c'est le nombre de ce qui est complet, et on retrouve 7 fois 7, 49 fois le nom Église. Le nombre 7 dans ces lettres aux Églises. Encore une fois, c'est pas par hasard. Ça veut dire que le message qui est là est un message complet que chaque église devrait vraiment avoir soin d'écouter et de mettre en pratique. Nous avons vu qu'il y avait d'abord un destinataire, ensuite une description de Jésus tirée du premier chapitre de la lettre de l'Apocalypse, ensuite des choses positives, des compliments, suivies de reproches, suivi de directives, de mesures correctives pour corriger la situation qui n'est pas bonne, suivi d'un avertissement que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, et finalement une promesse au vainqueur, à celui qui met en œuvre les mesures correctives et suit vraiment le Seigneur. C'est intéressant parce que ça nous montre que dans chaque église au cours d'histoire et dans chaque dénomination, nous avons vu que certaines églises pouvaient correspondre aussi à des dénominations ou des mouvements d'église présents, il peut y avoir des gens qui sont sauvés. Il n'y a rien de pire que de croire que nous sommes la seule. Si on avait voulu faire un gag, tu peux serrer. Merci. debout, peuple de Dieu. Dans chaque église, nous allons voir qu'il y a, des gens fidèles, des chrétiens fidèles. Et ça, c'est encourageant. Et ça nous invite aussi à ne pas rejeter en bloc tout un mouvement, tout un groupe, mais à s'assurer qu'ils ont compris le message et, si besoin, à leur indiquer le message. Ici, le destinataire, c'est l'église de Pergame, l'ange de l'église de Pergame. On a vu que ça voulait dire sans doute le responsable, le pasteur, peut-être, de l'église de Pergame. Pergame, c'était une petite, c'était une ville moins grande qu'Éphèse, mais c'était la capitale politique de la province d'Asie. C'était une ville qui était caractérisée par beaucoup de cultes païens. Il y avait des temples, il y avait quatre grandes idoles païennes, il y avait Zeus, ou Jupiter pour les Romains, il y avait Athéna, Bacchus, et Esculape, ou en grec Asclépios, qui était le dieu de la guérison. Il y avait aussi des temples dédiés à l'empereur Auguste. Donc c'était une ambiance très païenne. Le mot, nous avons vu que souvent le nom de l'église qui était la destinataire de la lettre avait une signification en rapport avec le message. Le nom de Pergame, vous connaissez le mot monogamie, le nom bigame, polygamie. Pergame, ça voulait dire mariage mixte. Et on va voir que c'était le signe d'un compromis, d'une compromission qui n'était pas acceptée par le Seigneur. Notre pasteur de Seattle il y a quelques années, malheureusement je n'ai pas pu y participer, a fait un voyage des sept églises en Turquie. Et donc en se rendant sur place, on apprend des choses qu'on ne trouve pas dans les livres. Il nous a raconté que c'était le culte de Asclépios qui était le plus intéressant. On a retrouvé des passages souterrains qui étaient en fait ce qu'on pourrait appeler des tunnels de guérison. Tunnel, ça fait penser au scanner où on rentre dans une espèce de tunnel pour que l'ordinateur prenne des images. Mais là, les gens rentraient dans ce tunnel et les prêtres d'Asclépios, ou d'Esculape en latin, se plaçaient, il y avait des ouvertures tous les 10 mètres, et les gens qui étaient malades rentraient dans un de ces tunnels, et au bout de 10 mètres, ils entendaient la voix d'un prêtre qui lui disait « Vous allez beaucoup mieux ». Continuez 10 mètres plus loin, ils entendaient « La guérison arrive ». Puis, un peu plus loin, il y avait encore « Asclépios vous aime ». Un peu plus loin, « Tout va bien ». Encore un peu plus loin, vous êtes presque guéri. Puis encore un peu plus loin, ça y est, vous êtes guéri. Il sortait en disant, ça y est, je suis guéri. Puis quelques temps plus tard, ils s'apercevaient que leur infirmité était toujours là. C'était une espèce de méthode couée, une méthode psychologique où on vous dit, si tous les matins dites-vous que ça va bien, ça va bien. Ou dites-vous qu'il va faire beau ce matin, il va faire beau. Et à force de répéter, Les choses vont arriver. C'est un peu cette espèce de lutte entre la matière et l'esprit. Et bien sûr, c'était un mensonge de l'ennemi. Et ça, bien souvent, on a l'impression, c'est ce que la psychologie peut apporter. C'est un simple message. Et bien sûr, des bonnes choses dans les coups, dans l'intérêt d'un patient. Mais il n'y a rien dans la psychologie qui ne soit pas présent dans la Bible. Il n'y a pas besoin de la psychologie pour guérir les gens. Nous vivons dans un monde où, dès qu'il y a un détraqué sexuel, on l'envoie chez le psychologue ou chez le psychiatre. Mais est-ce que ces gens sont jamais guéris? Je crois pas. Je crois que la psychologie, c'est un essai de l'homme à se mettre à la place de Dieu, avec la sagesse qui ne vient que de la parole de Dieu. Il y a bien sûr des méthodes d'analyse thérapeutique ou de dialogue, mais rappelez-vous que avant notre brave docteur Freud, les gens vivaient, mouraient et recevaient de l'encouragement par la parole de Dieu, par le Seigneur. Asclépios. Ce qui est intéressant, c'est que le symbole de ce dieu, c'était deux serpents qui étaient montés sur une espèce de croix. C'est encore aujourd'hui le symbole des pharmacies, le symbole que l'on voit sur les cartes des docteurs garés en stationnement interdit. Certains pensent que, bien sûr, c'est peut-être dans le livre des Nombres, il est question du peuple d'Israël qui s'était rebellé contre Moïse et contre Dieu, et que Dieu avait envoyé des serpents venimeux qui les faisaient mourir, qui leur mordaient les talons et les faisaient mourir, et qu'il y avait ce serpent d'airain que Moïse avait mis sur un bâton pour monter en haut, un remède que le Seigneur avait donné, et il leur disait que pour être guéri de ces morsures de serpents, il suffisait simplement de regarder au serpent d'airain. Serpent d'airain, qui était dans ce cas-là un type, une préfiguration de la croix. Car la Bible nous apprend que pour être guéri de notre péché, tout ce qu'il faut faire, c'est regarder à Jésus. C'est totalement illogique, surtout pour les psychologues. Et pourtant, c'est la réalité de l'Évangile. Si nous regardons à Jésus, nous sommes guéris de notre maladie du péché. Je pense en fait que ce symbole avait déjà été inspiré par Satan à ce culte d'Asclépios avant même que Jésus n'arrive pour toujours faire une contrefaçon de la vérité. Pergame avait une grande librairie de 200 000 ouvrages. C'était, après la librairie d'Alexandrie, la plus grande librairie du monde. On explique que, par amour pour Cléopâtre, l'empereur Antoine avait envoyé certains des livres de Pergame à Alexandrie. Et que Pergame avait essayé de faire venir le grand libraire d'Alexandrie à Pergame pour bénéficier de son expérience et de son savoir, et que le roi d'Égypte furieux avait interdit que l'on fournisse du papyrus à la ville de Pergame. Alors, pour remplacer le papyrus qui leur manquait, ils avaient commencé à utiliser des peaux d'animaux, des peaux de veaux, de bœufs, de vaches. Et en fait, le mot était devenu classique, on disait, on parlait des feuilles de Pergame. En latin, c'était les Pergamum charta, dont nous avons hérité le mot parchemin. Donc Pergame, c'est l'origine du parchemin. Voilà un peu pour situer le contexte historique. C'était une ville bâtie sur une colline. Il y avait un grand temple de Zeus, dont on parlera un peu plus tard. Deuxième élément, vous vous souvenez d'une description de Jésus tirée de la description que l'on trouve au chapitre 1. Celui qui parle, Jésus, se définit comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. La parole de Dieu, la vérité. Bien sûr, vous vous souvenez, nous avons rappelé Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. La parole de Dieu, ça peut être, pour reparler encore de médecine, c'est comme une radiographie profonde. Une radioscopie, un IRM, un scanner, qui montre ce qu'il y a à l'intérieur. Nous ne voyons pas ce qui est dans notre cœur. Parce que notre cœur est vraiment corrompu, notre cœur est tortueux, dit la parole. Mais la parole de Dieu peut révéler les problèmes qui sont dans notre cœur. L'épée, en plus, était un symbole d'autorité et de justice parmi les Romains. Et là, Jésus se pose en celui qui a l'autorité ultime et celui qui va rendre le jugement final. Et ensuite, un compliment. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Ils n'avaient pas la tâche facile. C'était un endroit difficile. Parce qu'il est dit que le trône de Satan se trouvait là-bas. Certains pensent peut-être que c'était le trône de Zeus. Devant le temple de Zeus, il y avait un monument qui représentait comme un grand trône qui mesurait 12 mètres de haut. Et Zeus, comme étant le chef de la mythologie grecque, était comme un peu comme Satan, qui essayait de prendre la première place qui est à Dieu. Nous vivons dans une ville où les sciences occultes, la magie, le satanisme, ont pignon sur rue. Il suffit de prendre Nice Hebdo, de voir qu'il y a plus de voyants, de marabouts, de cartomanciennes que d'églises évangéliques. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie soif de Dieu que Satan a encore une fois corrompu, détourné de son premier rôle, nous amener à Dieu. Au mois de février, je crois, ou mars, il y a un festival mondial de la voyance à Nice, chaque année. Il y a un esprit de plaisir, de paraître, qui fait que nous vivons dans un endroit difficile. Mais là, encore une fois, c'est dans ces endroits que Dieu aime se manifester. Plus ça paraît difficile, plus il va être glorifié. Est-ce que ce serait pas formidable que au lieu de venir pour le carnaval de Nice, des masses entières viennent ici pour rencontrer le Seigneur? Le carnaval, c'est la fête de la chair, carnis. C'est les fêtes païennes, on se déguise, à l'origine, c'était accompagné de débauche, et je suis sûr qu'il y a de la débauche, mais la débauche semble permanente. On boit, on fait n'importe quoi. Il y a une anecdote fascinante au sujet de ce trône de Satan, qui est rapportée par Ray Stedman, un auteur américain. Il est dit qu'en 1880, un archéologue allemand a retrouvé ce trône, cette sculpture, c'est presque un monument puisqu'il fait 12 mètres de haut, et qu'il l'avait fait revenir à Berlin-Est en 1880. On peut se demander s'il n'y a pas un rapport de cause à effet avec le fait que le parti nazi a été constitué dans Berlin-Est, avec tout le cortège d'atrocités qui ont suivi, où il semblait que Dieu vraiment n'était plus là. Et que c'était Satan qui menait le bal. Il y a eu aussi, bien sûr, la montée du communisme, la construction du mur de Berlin. Juste un petit épisode fascinant. Jésus leur dit, il sait où il demeure. Jésus sait toutes choses. Il connaît vos situations, vos difficultés. Et il sait qu'ils ont retenu son nom, c'est-à-dire qu'ils ont été fidèles au nom de Jésus. Ils n'ont pas eu honte de ce nom. Et le Seigneur nous invite avant tout à glorifier ce nom, à le magnifier, à le respecter, à le faire connaître. Le nom de Jésus, vous vous souvenez, vient de l'hébreu pour Yehovah Shua, Yeshua. Ça veut dire Dieu sauve, ou le salut de Dieu. Jésus, c'est le salut de Dieu. Encore une fois, si un jour vous vous retrouvez en enfer, que, bien sûr, on déplaise à Dieu, ce ne sera pas parce que vous avez commis tel ou tel péché, parce que vous avez continué de tricher, de mentir, de tuer, de violer. Si vous êtes un jour en enfer, ce sera pour une seule raison. C'est parce que vous aurez rejeté Jésus-Christ. Jésus, c'est le salut que Dieu nous offre. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Peut-être vous raconter encore l'anecdote que j'aime bien utiliser d'imaginer ces matelots qui sont à bord d'un gros bateau et qui sont en train de jouer aux cartes, de boire. Et puis il y en a un qui commence à dire à l'autre qu'il a triché. Et l'autre lui dit, mais non, j'ai pas triché. Puis avec la boisson, il commence à en venir aux mains, à se battre. Ils se battent sur le pont, il y en a un qui frappe l'autre. Et puis l'autre, il tombe par-dessus le bastingage, il se retrouve dans l'eau qui est froide. On lui jette une bouée de sauvetage. Dean, il n'en veut pas, il veut revenir par lui-même vers le bateau. Ben ça, c'est l'image des hommes qui refusent Jésus. On pourrait dire, cet homme-là est mort d'hydrocution parce qu'il avait un caractère coléreux, ou parce qu'il avait un problème avec l'alcool, ou parce qu'il boxait mal. Il n'était pas physiquement agile. Mais en définitive, la raison pour laquelle il meurt, c'est parce qu'il refuse le salut qui lui est offert. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Le nom de Jésus, il n'y a pas d'autre nom, vous souvenez, Actes 4, 12, il n'y a pas d'autre nom donné sous les cieux parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre chemin. Ces hommes ont donc retenu le nom de Jésus. Ils n'ont pas renié leur foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Antipas, c'est le seul endroit de la Bible où il est question de ce personnage. On ne sait pas si c'était un personnage réel ou si c'était simplement un symbole de la résistance de tous les chrétiens qui ont retenu le nom de Jésus. Un peu comme sous l'Arc de Triomphe, vous savez, il y a un tombeau du soldat inconnu qui symbolise le combat de tous les soldats qui sont morts pour libérer la France. La tradition dit que c'était un personnage réel, il y a même une histoire. Vous vous souvenez, le mot martyr, pour nous c'est quelqu'un qui meurt pour sa foi. En fait, ça voulait dire simplement témoin. Mais à l'époque, un témoin, c'était quelqu'un qui était prêt à mourir pour sa foi. Et un vrai témoin mourait pour sa foi dans ce monde de persécution de l'époque. Jésus l'appelle le témoin fidèle. Et c'est drôle que le témoin fidèle, c'est une expression que Jésus utilisait dans le chapitre 1 pour se désigner lui-même. Donc lorsque nous sommes fidèles à Jésus, il est prêt à nous comparer à lui-même. C'est incroyable. La tradition dit que ce personnage avait juré devant... On lui avait demandé de jurer que César était seigneur devant une statue de César. Il avait répliqué comme le pasteur de l'église d'Éphèse dont on avait parlé, « Non, Jésus-Christ seul est Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. » Et quelqu'un lui avait dit, « Tu ne sais donc pas que tout le monde entier est contre toi ?» Il avait dit, « Eh bien tant pis alors, Antipas est contre le monde entier. » D'où son nom Antipas, ça veut dire « contre tout ». Et la petite histoire dit qu'on l'aurait fait cuire à l'intérieur d'une statue de taureau en bronze qui aurait été chauffée à blanc. Que ce soit une histoire authentique ou que ce soit le symbole, encore une fois, c'est le symbole du témoignage réel qui est prêt à aller jusqu'à la mort. Maintenant viennent les reproches. Il y avait deux erreurs qui affaiblissaient l'Église. Il y avait... Le Seigneur disait, « J'ai contre toi certains griefs. Tu as des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak de faire en sorte que les fils d'Israël se trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. Et aussi des gens qui maintenaient pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Vous vous souvenez des Nicolaïtes? On en a parlé dans l'église d'Éphèse. C'était une doctrine qui était en horreur à Jésus. C'était un point positif dans l'église d'Éphèse, parce qu'ils avaient de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de doctrine de Balaam? La doctrine des Nicolaïtes, on en a déjà un peu parlé. Balaam, c'est un personnage un peu mystérieux de la Bible dont il est question dans le livre des Nombres. Si vous voulez lire l'histoire en détail, c'est dans le chapitre 22 à 24 du livre des Nombres, et aussi le chapitre 31, qui ajoute certaines informations. Le peuple d'Israël devenait puissant, et il y avait un roi de Moab, une des régions que les Israélites allaient occuper, qui s'appelait Balak, et Balak avait peur des Israélites. Alors il avait demandé à ce Balaam, qui était une espèce de sorcier connu pour sa capacité de jeter des sorts, et en même temps on voit qu'il avait une certaine connaissance, parce qu'on lit le livre des Nombres, on voit qu'il avait une certaine connaissance de Jéhovah, le Dieu des Israélites. Et Balak avait donc demandé à Balaam de maudire le peuple d'Israël. Et Balaam, au début, avait dit, mais non, je peux pas, parce que c'est le peuple béni par Dieu. Et puis, Balak avait fait jouer certains éléments, il lui avait dit, mais si tu fais ça, tu vas devenir riche, tu vas devenir célèbre. Et quand on lit le livre des Nombres, on voit que la résistance de Balaam était tout à fait une résistance de surface, mais qu'au fond de lui, il était très, très, très agrippé par les avantages matériels qu'on lui proposait. Et qu'il était prêt à se compromettre. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois que Balaam essayait de maudire, finalement il en venait au point où il était prêt à maudire le peuple d'Israël pour des avantages matériels. À chaque fois qu'il essayait de maudire ce peuple d'Israël, c'était des bénédictions qui sortaient de la bouche de Balaam. Et ça rendait fou le roi Balak. Il y a un épisode où Dieu disait à Balaam, de ne pas maudire le peuple d'Israël. Et on voit que Balaam essayait toujours, il disait, non, je peux pas, mais je vais demander au Seigneur. Alors que le Seigneur lui avait répondu clairement. Et à un moment donné, Dieu lui dit, vas-y, va faire ce que tu veux faire. Mais en même temps, le Seigneur était en colère. Ça doit nous rappeler que des fois, lorsque nous persistons dans le péché, des fois, nous avons l'impression que le Seigneur nous dit « Allez-y », ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas en colère contre nous. Des fois, il nous laisse faire pour que nous allions au bout de notre péché, que nous en expérimentions les conséquences. Et là, ce Balaam, il était à Dodan, et en fait, sur le chemin, il y avait un ange qui voulait le frapper, mais son âne avait vu cet ange et s'était arrêté. Balaam, lui, ne voyait toujours rien. Il frappait son âne. Il l'a même vraiment frappé de toutes ses forces. Et finalement, l'ange s'est révélé pour lui dire, mais tu vois pas que l'âne a parlé à Balaam. C'est intéressant de réaliser que Dieu peut utiliser des ânes pour parler. Ça me réconforte. Il peut mettre ses paroles dans nos bouches. Et là, il mettait des paroles dans l'âne en disant, mais tu es fou, tu vois pas que tu vas te... L'âne lui disait, mais depuis que tu me connais, est-ce que moi je t'ai jamais déçu ou est-ce que je t'ai mal servi? Et Balaam devait dire, ben non, puis il réalisait que c'était l'âne qui parlait. Mais tout ça pour dire que Balaam n'arrivait pas à maudire le peuple d'Israël pour Balak. Et c'est plus loin au chapitre 31 qu'il est dit qu'en fait, Balaam a conçu un autre stratagème qui était d'envoyer les jeunes filles moabites flirter avec les jeunes hommes israélites, les jeunes juifs. Ce qui s'est passé, ils ont eu des relations entre eux et les femmes, elles, étaient des vouaient un culte aux idoles et par intérêt sexuel, par compromission, les jeunes juifs ont commencé à laisser rentrer l'idolâtrie en Israël. Et ça nous parle du danger de nous compromettre. Ça nous parle du danger de laisser nos exigences morales faiblir un peu. Tout ce qui est mariage mixte, la Bible nous répète sans arrêt, dans toute la parole, ne pas aller nous marier, nous mettre dans des relations, même des relations profondes, comme être partenaire en affaires avec des non-chrétiens, parce que ce n'est pas les mêmes valeurs. Et c'est voué à l'échec. Il y a des exceptions que les gens aiment bien noter, dans leur cas, s'ils sortent avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais la Bible sans arrêt nous rappelle que la compromission, le mariage mixte, les relations en dehors du sexuel, en dehors du mariage, tout ça, ce sont des choses qui déplaisent à l'Éternel. Le compromis, on pourrait faire toute une étude, on aura l'occasion d'en reparler, mais le compromis, c'est quelque chose de très dangereux. D'abaisser un peu la garde, nos barrières, et après, la voie semble plus facile. On le fait une première fois, la deuxième fois est plus facile, la troisième fois, et puis après, on... L'idolâtrie, c'est aussi se vouer à quelque chose qui n'est pas Dieu. C'est laisser quelque chose prendre la place qui doit appartenir à Dieu dans nos vies, la première place. Lors de la conférence, Nick a prêché un sermon très inspiré où il nous a partagé que lorsqu'il était enfant, il se souvenait avoir vu l'arrivée des Beatles en Amérique. Et c'est vrai que quand on voyait les foules qui arrivaient pour accueillir les Beatles, vous avez sans doute vu ça dans des films à la télé, il y avait des milliers de personnes, beaucoup de jeunes filles qui tombaient en pamoison, qui s'évanouissaient, qui levaient les mains, qui pleuraient, qui chantaient, qui criaient. Et Nick disait, en fait, ça c'est de l'adoration qui doit revenir à Dieu. Et que toute une génération de jeunes a cherché la puissance dans les décibels des guitares électriques, dans la puissance dans la drogue, la puissance dans la liberté, dans l'immoralité sexuelle. Et qu'en fait, si la société va si mal, c'est parce que nous sommes détournés de Dieu. Moi-même, je sais que j'ai été fasciné par les Beatles. Je me disais, je les ai jamais vus, mais même quand j'étais plus âgé, je dirais, je serais prêt à dépenser jusqu'à 500 francs pour aller voir Paul McCartney. Alors, c'est pas que Paul en lui-même soit un instrument de Satan, mais Ils ont ouvert la période du nouvel âge dans la société occidentale. Vous vous souvenez, ils allaient voir le Maharaji, ils allaient faire du yoga, ils sont allés en Inde, Tout ça, c'est une génération européenne et américaine, le monde de l'Ouest, qui a été complètement détourné de la puissance de Dieu, de l'adoration de Dieu. Et Nick partageait qu'en fait, lorsque les jeunes, cette nouvelle génération, connaît Jésus, voit la puissance de Dieu à l'œuvre, ils veulent, ils ont soif de ça. Tous ces problèmes de société, c'est des soifs de Dieu mal dirigés. Jérémie, le prophète Jérémie, disait déjà que les Juifs allaient boire dans de mauvaises citernes, des citernes où il y avait de l'eau saumâtre au lieu d'aller boire à la fontaine de la vie éternelle, à l'eau vive de la vie éternelle. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est ce que Jésus reprochait à cette église, c'est que ils avaient laissé entrer cette doctrine. Ils se livraient à la débauche. Ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles. On a abordé ce sujet des viandes sacrifiées aux idoles. On a vu que Paul n'en faisait pas un péché en soi. Mais là, évidemment, c'était qu'un début. C'était ce qui conduisait à un culte des idoles. Et puis les Nicolaïtes, donc on a vu que il est intéressant de savoir que l'Église catholique a parlé longtemps de ce qu'il y avait un certain Nicolas qui avait des disciples et que c'était l'hérésie des Nicolaïtes. Mais en fait, lorsqu'on regarde bien à l'histoire et qu'on cherche des documents, on ne trouve rien du tout. En fait, le problème, c'était que Nicolaïtes et Nicao Laos dominaient, gouvernaient sur Laos, le peuple. C'était l'institution de la prêtrise. Il y avait deux types de chrétiens. Il y avait des chrétiens à deux vitesses. Il y avait le bas peuple et puis il y avait le clergé. Et cette différence que l'Église catholique a instituée entre un clergé super spirituel et des pécheurs de tout venant, c'est quelque chose dont le Seigneur a horreur. Il a de la haine pour ça. Pourquoi ? Parce qu'il est mort sur la croix pour abolir la prêtrise. Vous vous souvenez, le voile dans le temple, lorsqu'il est mort sur la croix, le voile du temple a été déchiré de haut en bas, indiquant que c'était Dieu lui-même qui ouvrait une voie. Dans Hébreux, je vous invite à regarder avec moi, Hébreux 10, verset 19, page 253 dans la Bible à la Colombe. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le voile qui s'est déchiré, c'est la chair de Jésus qui a été déchiré par le sacrifice de la croix. Jésus a donné sa vie pour qu'il y ait accès au Père, pour qu'il n'y ait plus de prêtrise. Pas étonnant donc qu'il ait cette horreur de l'établissement d'un clergé au-dessus des fidèles. Il est très important que chacun d'entre vous, vous sachiez que vous avez autant d'accès au Père par Jésus que n'importe quelle autre personne. Que ce soit le pape, que ce soit Billy Graham, que ce soit le pasteur d'une église de 10 000 personnes, peu importe, Jésus est mort pour que nous ayons cet accès. Il est le médiateur entre l'homme et Dieu. Il n'y a plus de barrière. Et le Seigneur a en horreur cette doctrine d'un clergé supérieur au reste du monde. La directive est simple. Repens-toi. Fais demi-tour, arrêtez d'aller vers ces choses mauvaises. Sinon, je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Encore une fois, la parole de Dieu. La parole de Dieu veut dénoncer ces deux erreurs, celle de l'immoralité et celle de la supériorité du clergé. Pendant longtemps, on ne pouvait pas étudier la Bible dans l'Église catholique ou dans certaines églises, l'Église orthodoxe. Pourquoi ? Parce que ces choses-là étaient clairement combattues. Un passage comme ça ne pouvait pas être lu sans causer des problèmes. Encore une fois, change de conduite, change de cœur. Ça, c'est la repentance. Et l'épée de la bouche de Jésus, du Seigneur, encore une fois, c'est la parole de Dieu. Toujours pour reprendre nos images médicales ce matin, c'est comme le scalpel qui peut enlever la tumeur bénigne ou maligne. Il faut cette opération. Et la parole de Dieu est toute puissante pour enlever ce qui est mauvais en nous, pour nous montrer ce qui est mauvais et nous faire changer de cœur. L'avertissement, comme toujours, c'est pas pour l'église il y a 2000 ans, pour une petite église qui n'existe plus. Non, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et puis la promesse au vainqueur. Je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. La manne cachée, vous souvenez de la manne, c'était la nourriture que Dieu avait donnée aux Israélites lorsqu'ils traversaient le désert. Il y en avait juste assez chaque jour pour subvenir aux besoins, sauf la veille du sabbat, on pouvait en prendre pour 2 jours. Mais si on en accumulait trop, alors ça pourrissait. C'était une dépendance sur Jésus, sur Dieu, une foi en sa bonté, en sa provision. Et c'est aussi la manne, c'est un type, c'est-à-dire une préfiguration du pain de vie que Jean décrit au chapitre 6 comme étant Jésus lui-même. Jésus est celui qui va satisfaire toutes nos fins spirituelles. Les autres fins, en fait, si notre faim spirituelle est rassasiée, alors elles prennent beaucoup moins d'importance. Et le Seigneur nous fait la promesse aussi de les satisfaire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Caillou blanc, c'était comme un signe de justice. Dans les tribunaux de l'époque, on pouvait voter avec des cailloux blancs ou des cailloux noirs pour savoir si on décidait que la personne était innocente ou coupable. Et là, le Seigneur nous donne ce caillou blanc qui est un signe de notre innocence. Et bien sûr, ce caillou blanc, ça représente la justification par la foi. Ça représente la justice que Jésus est prêt à nous donner si nous l'acceptons dans notre cœur. Et puis, il est question de ce nom nouveau que personne ne connaît. On chantait tout à l'heure, je changerai ton nom. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu donne de nouveaux noms. Et le nom en hébreu, ça représente le caractère de la personne, l'intégralité de la personne. Ça veut dire que, par exemple, Abraham est devenu Abraham. Il a ajouté le H sacré de la présence de Dieu, père d'une multitude. Sarah est devenue Sarah. Simon, dans le Nouveau Testament, est devenu Pierre. Saül est devenu Paul. Saül ou Saul est devenu Paul. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom nouveau? Je peux rien vous dire parce que personne ne connaît ce nom. Mais je crois que ça veut dire que il va y avoir un nom d'intimité. Peut-être au lieu d'être Michael Cantor, ce sera Mimi. Et c'est vrai que souvent dans un couple, on peut avoir un nom qu'on réserve à l'autre, que personne ne connaît, ou qu'on n'aime pas que l'autre utilise. Je vous dirai pas celui qui non s'y utilise. Mais c'est un signe d'intimité profonde et éternelle. Prophétiquement, cette église, elle représente l'église entre les années à peu près 3e siècle ou 6e siècle. Constantin, l'empereur Constantin s'est converti au christianisme en 316, où il en a fait une religion d'État en 316. Et on peut se dire, ah chouette alors, l'église a dû progresser. Mais on ne sait pas d'abord, pour une chose, si la conversion de Constantin était une conversion sincère et réelle, mais s'il a conduit à ce qui s'est passé après le fait que cette religion devienne la religion officielle de l'État, c'est qu'on a essayé d'y incorporer toutes les autres religions, toutes les autres croyances. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le syncrétisme. On met un peu de magie s'il y a de la magie, et je crois aujourd'hui encore dans l'Église catholique en Amérique du Sud, on peut voir dans certaines églises des chamans, des sorciers guérir en tuant des poules derrière l'église, et c'est tout mélangé, en fait. Et ce syncrétisme, c'est bien le nom de Pergame. C'est un mariage mixte. C'est un mélange de choses qui ne devraient pas être mélangées. C'est un mariage de compromis. On parlera davantage de ça lorsqu'on étudiera l'église de Thyatire, qui est un symbole aussi de l'église catholique au cours des siècles. Et bien sûr, ça a été les débuts de l'établissement d'un clergé qui était établi au-dessus du reste des hommes. Mais la leçon de Pergame, pour moi, c'est éviter le compromis. Le compromis, c'est quelque chose de terrible parce que ça arrive subtilement. C'est pas d'un seul coup où on vous demande de, imaginons l'adultère avec une personne en dehors de votre mariage. C'est pas quelque chose qui arrive d'un seul coup. C'est quelque chose qui est progressif. On commence à ouvrir notre esprit à cette pensée, peut-être à la cultiver. Puis un jour, le passage à l'acte arrive. Et une fois que le passage à l'acte s'est produit une fois, il est beaucoup plus facile à l'ennemi de nous faire passer à l'acte une deuxième fois, et ainsi de suite. Le compromis, ça abaisse toujours nos exigences initiales. Ce que la foi nous dit, nous demande, on dit oui, mais il ne faut pas être aussi sectaire, aussi ferme, notre monde, enfin, on vit quand même. Combien de fois on entend parmi les chrétiens, on est quand même à la fin du XXe siècle? Il y a certains chrétiens qui disent même que, en fait, l'avortement, l'Église officielle, la position de l'Église protestante officielle est une horreur. Elle dit que l'avortement, c'est une question de choix personnel, sans reconnaître l'autorité de la parole de Dieu. Dans ce sens, les catholiques, on verra, ont des choses pour lesquelles Jésus les complimente. Et la lutte contre le Pax, contre l'avortement, c'est pas l'Église protestante qui la mène, c'est l'Église catholique. Et le compromis, le problème, c'est que souvent c'est la première étape vers la désobéissance totale. C'est un peu comme la pente savonneuse proverbiale, quoi. Une fois qu'on est dessus, c'est difficile de s'arrêter. Il faut vraiment faire un effort, il faut faire ce repens-toi, il faut s'arrêter, demander au Seigneur, crier vers le Seigneur pour qu'il nous aide dans ces situations. Et je vous invite peut-être à chacun, dans le silence de vos cœurs, à vous demander où est-ce que vous auriez tendance à céder au compromis, que ce soit en matière d'argent, en matière de finances, en matière sexuelle, en matière de moralité, d'honnêteté, vous savez, le Seigneur peut vous parler et vous montrer ces choses. Et vous pouvez crier à lui pour lui demander, non, stop. Intéressant, c'est que les trois églises dont nous avons parlé, Éphèse, Smyrne et Pergame, elles n'existent plus. Il n'y a plus de témoignages chrétiens dans ces villes, à proprement parler. Et dans ces passages, l'avertissement que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises vient avant le message pour les vainqueurs, la promesse pour les vainqueurs. Alors que pour les autres, le message, la promesse pour les vainqueurs vient avant et l'avertissement arrive en dernier. Et ça, c'est un signe que les quatre églises que nous allons voir à la fin, elles sont encore présentes parmi nous aujourd'hui et que le Seigneur continue de nous avertir. C'est une façon de voir, parce qu'il y a ce changement d'ordre qui peut prêter à question. Et c'est une façon, je crois, d'y répondre, c'est de dire que ces quatre dernières églises que nous verrons à partir de la semaine prochaine, le Seigneur leur parle encore de façon directe. Mais encore une fois, le Seigneur nous parle par toutes ces églises, par tous les messages de ces églises, et il nous demande ce matin de repousser le compromis, que ce soit dans tous les domaines, avec la plus grande énergie, avec son aide, en criant vers lui. Je vous invite à prier maintenant. Seigneur, tu nous le rappelles, tu es celui qui sait toutes choses. Tu connais chacun de nos cœurs, Seigneur, mieux que nous ne le connaissons. Et Seigneur, tu vois et tu nous dis. Tu dis à chacun de nous dans quel domaine, Seigneur, nous sommes sur la pente glissante du compromis, Seigneur. Alors nous t'implorons ce matin de nous aider à crier vers toi pour que cette glissade cesse, Seigneur. Pour que nous revenions à tes exigences, Seigneur. Qui ne sont pas des exigences coûteuses, Seigneur, parce qu'en fait, ces exigences qui peuvent paraître comme étant difficiles et contre notre propre joie et satisfaction, en fait, Seigneur, ce sont des protections. Les exigences, Seigneur, sont des signes d'amour, comme un parent qui a dit à son enfant de ne pas toucher la casserole d'eau chaude, Seigneur. Et tu nous dis que tu ne veux pas que nous nous brûlions, Seigneur. Alors tu nous mets en garde contre les compromis dans tous les domaines, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que c'est souvent dans le domaine de la sexualité, dans le domaine de la monnaie, dans le domaine de l'argent, Seigneur, dans le domaine de la puissance, l'autorité sur les autres, Seigneur, que nous sommes vulnérables, Seigneur. Alors, nous t'implorons, Seigneur, agis et purifie-nous, comme nous le chantions ce matin, Seigneur. Feu du fondeur, purifie-moi. Fais de nous comme de l'or et de l'argent purifiés, Seigneur, pour que nous soyons de purs vaisseaux de ton amour et de ton évangile. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous donne une bonne semaine. Je vous rappelle de notre mission cette semaine. Déménager Edwin. Essayer d'être nombreux. Lorsque nous avons fait le déménagement de Paul et Rachel, ça s'est fait en une matinée. Quelque chose qui peut prendre deux jours peut prendre une matinée si nous sommes assez nombreux, et en plus c'est une occasion de montrer l'amour en action. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous mardi soir ou mercredi. Reprenons l'étude de mercredi. J'ai entendu que l'étude avec Thierry s'était très bien passée. Merci pour tous ceux qui l'ont encouragé en étant présent. Bonne semaine dans la paix du Seigneur. Amen.